Sophie Trizac.
Même si tous les chapeaux lui font, il ne parle jamais à travers son chapeau. Vous écoutez
du Trizac.
Antoine Robitaille et Caroline Saint-Hilaire sont avec nous pour parler de politique. Allons-y avec le federal pendant que Antoine branche son appareil.
Mets-le aux trois.
Vas-y, Caroline, les vaccins, là, on vient d'apprendre la facture des vaccins.
Ben en fait, ouais, effectivement, parce que la dernière mise à jour de Madame Freeland, elle nous parlait de 1,67 milliards à peu près. Or, dans le journal ce matin, on apprend que les différentes personnes ont épluché les 840 pages du budget et ce serait plutôt 9 milliards. Je sais pas pour toi, là, mais entre 1 et 9 milliards, je comprends que c'est un peu abstrait, mais il y a une grosse marge. Mais en même temps, bien sûr, on nous explique pas exactement d'où vient cette augmentation. D'où vient cette différence? En même temps, Benoît, et j'imagine qu'Antoine pense un peu comme ça, on s'en fout peut-être un peu de savoir combien on paie pour ces vaccins. On voit que les gens se garochent, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a quand même pas une légitimité de poser la question à combien nous reviennent les doses de vaccins? D'où viennent ces écarts-là?
Moi, Caroline, oui? C'est que si on avait été en haut de la liste à ce prix-là, je comprends, mais si on est 37e ou 50e à se faire vacciner sur la liste des pays à travers le monde, je veux dire, là, on paye cher, puis on est servi après tout le monde.
Ouais,
au restaurant, tout le monde a fini son lunch, on est rendu au dessert, puis on n'a pas reçu notre soupe encore, là.
Ouais, puis même les vaccins AstraZeneca, on apprend que nous on les paierait autour de 8 $, alors que on nous avait dit à l'époque que cette compagnie-là ne faisait pas le vaccin en but de faire des profits. j'essaie de dire ça sans rire là. Mais quand même aux États-Unis, ils les payaient 4 $, dans l'Union européenne, pardon, on les payait 2,15 $, et nous on les paierait 8,18 $. Donc, c'est quand même le même vaccin, on les a pas eu nécessairement, comme tu dis, plus rapidement. Donc, il y a quand même un gros écart. J'entends, là, on est tous contents, on va être vaccinés, puis bon, ça rentre, mais il me semble que quand même, on pourrait savoir qu'est-ce qui s'est passé pour passer de 1 à 9 milliards. Est-ce qu'au départ, on a été frileux, on n'a pas mis beaucoup d'argent, et effectivement, on a dû en rajouter pour les avoir un peu plus rapidement? Il me semble que tout ça sont des questions légitimes, mais on n'a aucune réponse aujourd'hui du côté d'Ottawa. Je pense que tout le monde fait le party pour la fête de la reine.
Non, c'est oui, c'est vrai. Il prépare un documentaire pour remplacer celui de Makakoto. Antoine,
c'est un complot.
Antoine, t'es là?
Ben oui, je suis là.
Bon, parfait. Alors, si tu trouves une explication à cette erreur de calcul entre 1,8 milliard et 9 milliards de dollars, tu nous avertiras, mais on met ça sur la carte comme le reste.
Ben oui, mais c'est peut-être des vaccins spéciaux là, avec des. On a peut-être pris bien des options.
Hein? Ah oui, peut-être c'est des vaccins à l'érable, tu sais, pour, en tout cas.
Oui.
Qu'on me dit, je vais entendre ça.
Il y avait peut-être des connexions très 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 bonnes à Internet aussi, je sais pas.
Non, mais c'est un peu fâchant de savoir qu'on se fait fourrer, qu'on a mauvais service, qu'on est servi après tout le monde. Puis là, on attend. Puis là, il y a une flambée en Ontario. C'est sûrement pas parce que Justin Trudeau a été très efficace dans la livraison des vaccins. Puis en plus, on
peut avoir une enquête là-dessus, parce que ce serait intéressant de savoir exactement ce qui s'est passé. Puis on a l'air là de présumer qu'ils ont mal négocié ou ils ont mal fait, mais on le sait pas.
Sortez le contrat.
Précisément.
Sortez les contrats. Moi, si
ben voilà, est-ce qu'une enquête pourrait faire ça, pourrait déterminer où on a fauté et comment on pourrait avoir des vaccins à un prix raisonnable?
Puis on prétend que c'est le secret commercial, on peut pas dévoiler les contrats. Or, dans d'autres pays, on les donne les prix. Alors, je sais pas exactement là, mais il me semble qu'effectivement, au lieu de demander constamment une enquête à Québec, il me semble qu'on devrait poser quelques questions à Ottawa. Il y a quand même un petit peu de nos sous là-dedans là. Hein?
Un petit peu. Le Bloc québécois, Caroline, demande.
Ça, c'est intéressant.
Propose quoi?
Il propose un sous-amendement, en fait, on appelle ça le projet de loi du budget, là, parce qu'il faut qu'il soit accepté par la Chambre des communes. On le sait qu'en principe, le NPD va appuyer le budget. Mais là, le Bloc québécois, je trouve qu'ils ont une stratégie fort intéressante et habile, ma foi. Ils proposent un sous-amendement à la motion pour adopter le budget en disant que si s'il y a un sous-amendement qui stipule que on accepte les transferts en santé aux provinces, dont le Québec, à 35%, le Bloc québécois appuierait le budget. Alors là, je trouve ça particulièrement intéressant de voir quelle sera la posture de Justin Trudeau des libéraux, parce que imaginons qu'il refuse de mettre ce sous-amendement dans le budget en disant qu'on va arriver au transfert en santé de tel que demandé de 35%. S'ils acceptent, ben c'est bon pour nous, ça va être bon pour les Québécois et les autres provinces. Et s'ils refusent, ben ça va devenir fatigant de pendant la campagne électorale au Québec, quand Justin Trudeau viendra, ben François Legault pourra lui rappeler qu'il a voté contre ce sous-amendement-là. Alors peut-être ce sera une façon de continuer de parler de ce foutu budget jusqu'à l'automne, mais je trouve que c'est une habile stratégie de la part du Bloc québécois.
Oh, les snoreaux. Et le PM, ça veut dire quoi, ça?
Le PM, premier ministre?
Oui. Pourquoi tu veux parler de lui?
Moi, j'ai-tu dit ça?
Oui, non, c'était sur la liste. OK. Je veux juste m'assurer que, tu sais, je sers
non,
les plats.
Non, mais tu lis mes notes, c'est bon, c'est bon.
Ça. Ah, ben oui, sans hésitation. Antoine Robitaille, de ton côté, le oui. juge Blanchard qui se lance en politique avec Québec solidaire. Non, c'est pas vrai.
J'ai dit ça, moi.
Non, on est mélangé dans nos notes.
C'est le lendemain du jugement Blanchard sur le projet, sur la loi 21 sur la laïcité. On sait que hier François Legault a qualifié cette décision-là d'illogique. On trouve que ça sépare le Québec en deux. Les partis s'entendent pas, évidemment, là-dessus. Hier, j'interviewais Québec solidaire, là, Alexandre Leduc de Québec solidaire. Il disait, au fond, on aurait aimé que la Cour déclare que cette loi-là est invalide, carrément, mais il s'inquiétait quand même de la division qu'elle pourrait instiller là, dans la société québécoise. Et là, c'est intéressant, il y a du nouveau ce matin, il y a Pascal Bérubé qui a déposé une motion sur cette question-là et qui a été adoptée à l'unanimité. Donc, même QS et le PLQ ont appuyé. La motion dit que le Québec n'a jamais consenti à l'ordre constitutionnel de 82, que la nation québécoise peut légitimement établir les règles de vivre ensemble, que tous les Québécois sont égaux devant la loi, puis, évidemment, que les lois adoptées par l'Assemblée nationale s'appliquent à tout le territoire du Québec, qui était comme une réponse quand même au jugement Blanchard. Mm-hmm. Puis, tout le monde a voté pour.
Bravo.
Alors, c'était assez rédigé... rédigé de manière assez subtile pour que ça passe la barre. Alors, je tenais à le souligner. C'est le lendemain aussi, aujourd'hui, d'un verdict important aux États-Unis.
Non, mais attends, avant de faire ça, là, j'invite les gens à aller lire le Montreal Gazette aujourd'hui là sur la loi 21. Vous allez voir à quel point le Québec est divisé en deux, à quel point les médias anglophones jettent de l'huile sur le feu pour victimiser des gens qui ne sont pas des victimes, puis à quel point on revendique des droits parce qu'on parle anglais, parce qu'on fait partie de la communauté anglophone au Québec. C'est vraiment là, je vous invite. Et il y a un éditorial, il y a un moment où on écrit que finalement la loi 21 permet à la majorité d'être intolérante. Pas de gêne. Allez lire ça. Allez voir ce que les anglophones disent de nous, les francophones, dans le CJD, puis Montreal Gazette, puis CTV, puis Global. Vous allez voir ce qu'on pense de nous. C'est pas joli, pantoute.
En tout cas, à l'Assemblée, on a parlé d'une voix, puis ça, c'était au moins tant intéressant. Mieux. Ça peut être un baume sur cette plaie de la division dont tu parles.
Bon, lendemain de verdict aux États-Unis à propos de Derek Chauvin.
Oui, c'est ça, qui a tué là, George Floyd. Donc, il va avoir... on s'est rendu compte pendant ce procès-là de l'importance des caméras corporelles et des caméras tout court, là, où quand il arrive une scène comme celle-là, est-ce qu'il aurait été déclaré coupable, le policier, s'il n'avait pas été filmé entièrement? C'est une vieille affaire, là, par contre, de filmer les policiers. On se souvient, nous, les vieux, de l'affaire Rodney King qui avait enflammé Los Angeles il y a 30 ans maintenant. Donc, c'était les premières caméras, là, c'était pas des caméras de téléphone. Donc, mais là, la question, c'est est-ce que les policiers devraient tous porter une caméra corporelle? Or, le gouvernement Legault a décidé de lancer 4 nouveaux projets pilotes avec la Sûreté du Québec pour tester l'utilisation de ces caméras-là. C'est la ministre de la Sécurité publique ce matin, Geneviève Guilbeault, qui l'a annoncé, était questionnée justement sur l'affaire d'Éric Chauvin et le meurtre de George Floyd. Alors, on va étudier ça notamment à Rimouski. Il y a plusieurs groupes qui sont exprimés en disant il faudrait là que les policiers soient munis de telles caméras. Il y a déjà eu un projet pilote, ça avait pas trop bien fonctionné d'après ce que j'ai compris, et ça avait soulevé certains problèmes. Est-ce que ça change vraiment l'attitude des policiers? C'est la question qu'on pose aussi. Mais c'est intéressant aussi que la ministre a souligné qu'il y a des différences entre les réalités américaines et québécoises. On peut pas comparer les deux climats, mais il y a quand même des situations complexes. Ce matin, il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui a comme fait de Québec solidaire, qui a fait un parallèle entre l'affaire Villanueva et l'affaire George Floyd, notamment. Donc, c'est des choses qui arrivent ici aussi. Il y a Benoît Charrette...
Attends. Non, je peux pas laisser aller là. Villanueva, là, il a tenté... Ben non, mais là, il a tenté d'enlever l'arme à feu du policier, là. C'est une tragédie. Il a été tué. Mais là, George Floyd était couché, menotté, il offrait aucune résistance.
Avec un genou dans
la gorge. Ben oui, là, tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois, là, faudrait relire ses notes, là, parce que, tu sais, on aborde la brutalité policière, on aborde l'abus de pouvoir, on aborde le profilage racial, je suis d'accord, mais avec des vrais faits, par exemple.
Mm-hmm. C'est ça, c'est toujours, mais c'est ce qu'apportent les caméras.
Aussi, c'est ça, c'est nécessaire.
Benoît Charrette, c'est ce qu'il disait, l'importance des vidéos filmées par les citoyens lorsqu'ils sont témoins d'interventions policières,
Attendre. Voilà. J'ai parlé à Alain Babineau tantôt, anciennement de la GRC, puis là, le procès des autres policiers qui étaient autour de Derek Chauvin et qui est en train de tuer George Floyd, là, le procès commence à la fin mai. Puis ça va être intéressant aussi, là, parce que c'est la complicité des policiers qui ont rien fait devant cette situation-là. Ça aussi, ça va être important.
Oui, exactement.
OK, et Québec solidaire avait une enquête sur le couvre-feu? Mais avant 8 heures le soir.
Ils disent que c'était censé être une mesure choc pour quelques jours, quelques semaines à la limite. Ça fait 3 mois. Gabriel Nadeau-Dubois dit c'est difficile pour certaines personnes le couvre-feu, vraiment. Il dit moi, j'ai une petite maison, je peux sortir dans ma cour si j'ai envie de ventiler. C'est pas le cas de tout le monde. Il faudrait quand même mandater l'Institut national de santé publique. Il a déposé une motion là-dessus tout à l'heure à l'Assemblée. Ça a été refusé, mais il continue de demander que le gouvernement se penche là-dessus parce que c'est vrai que c'est pas innocent, là. C'est pas,
anodin,
c'est le mot que je cherchais, le couvre-feu. Ça, c'est certain.
Mais on peut déménager à Toronto, voir si c'est mieux aussi. Tu sais, il y en a pas de couvre-feu à Toronto, puis ça arrête pas de flamber. Je sais pas. Personne aime ça, le couvre-feu.
Mais c'est bon. Mais c'est bon quand même qu'on étudie. Parce que si un jour on a à le réutiliser, cet outil-là...
Mais je vais vous informer d'une chose, là. Oh. La Deutsche Welle, qui est un service de nouvelles allemand, j'ai lu ça il y a 2-3 jours, j'en ai parlé avec Mario et Pierre le matin, ont fait une étude sur les résultats des couvre-feux à travers le monde. Ils ont même appelé, les journalistes allemands, la santé publique du Québec, qui n'était pas capable d'expliquer les données scientifiques des résultats du couvre-feu, mais ils extrapolent les résultats. Puis là, ils disent, avec les autres consignes sanitaires, la France, là, les Pays-Bas, ils nommaient les autres pays à travers, surtout en Occident, mais même au Maroc, puis les résultats des couvre-feux. Fait que la Deutsche Welle, cette étude-là existe parce qu'ils citent une étude britannique sur la question.
Moi, je trouve que c'est intéressant. C'est une évolution du discours des oppositions parce qu'ils demandaient vraiment une grande enquête là, totale.
Mais elle existe déjà. Qu'on aille voir ailleurs, on va avoir les résultats.
Tu comprends? Non, mais tu comprends que c'est quand même une évolution.
Oui.
Là, on dit qu'il faut mandater des scientifiques pour étudier les effets du couvre-feu sur la population. Je trouve que c'est une bonne idée quand même. Puis ça veut pas dire qu'on est contre le couvre-feu. Puis probablement que ça marche, le couvre-feu, mais si on comprend... Pourquoi ça marche d'abord? Puis aussi, surtout, quels sont les effets sur la population, surtout ces gens-là qui ont peut-être... Moi aussi, là, j'ai une petite maison avec une cour, là, puis je marche, puis je viens au bureau parce que je suis obligé de faire de la radio, tout ça. Donc, mais il y a bien des gens qui sont pognés chez eux.
Non, c'est vrai. Caroline, dernier mot.
Ben effectivement, moi je pense que dans l'avenir, ayons ce genre de données-là en main, parce que si un jour on veut remettre un genre de couvre-feu, ben si on a la démonstration scientifique que ça a fonctionné, ça va être plus facile à faire avaler après.
Mais quelle sagesse extraordinaire. Caroline Saint-Hilaire, Antoine Robitaille, merci à vous deux. À demain.
Au revoir. Au revoir.
Évidemment, c'est pas idéal. On comprend tous que c'est pas le fun d'être obligé de rentrer à la maison à 8 heures.